Mon époque, ma radio. 17h, 18h, plan B pour Bono sur le Move.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce plan B qui sera consacré à un romancier français que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Il y a 2 ans, nous avions reçu Thierry Bestingel pour son précédent roman « Retour aux mots sauvages », déjà un roman consacré au monde du travail et de l'entreprise. Thierry Bestingel revient avec « Île déserte » au pluriel sur la liste du prix Goncourt 2012 et toujours publié chez Fayard. Cette fois, il raconte les routes, les zones industrielles et les restaurants pour VRP et la boîte qui veut absolument virer le vieux vendeur, surnommé l'ours ou l'ancêtre, même s'il reste le meilleur. Pour ce roman, Île déserte, publié chez Fayard, Thierry Bestingel est l'invité de ce plan B, qui sera conclu, comme tous les vendredis, par Pierre Siankowski et son conseil mettons culturel, plan B qui débute avec Music is not fun, Paris. Thierry Bestingel, bonjour. Île déserte, nouveau livre publié chez Fayard. On s'était vu lors de votre précédent roman, déjà chez Fayard, Retour aux mots sauvages. Île déserte, quel beau titre. Alors, Île déserte, c'est en fait le premier chapitre et la première séquence du roman, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui commence une nouvelle vie, elle a un nouveau travail, elle s'installe dans un nouvel appartement et elle assiste à une scène étrange alors qu'elle arrive, elle assiste en fait au départ de quelqu'un.
Oui, effectivement, en premier lieu, elle arrive, quand on se projette un petit peu dans cette situation où en fait, on ne sait pas trop si elle arrive au début. C'est-à-dire que quand elle voit quelqu'un qui est en train d'emballer visiblement ou qui est en train d'accompagner plutôt une camionnette de déménagement qui elle-même a une espèce de vieux break qui lui correspond pas, où elle a entassé des plans de grâce, ses deux enfants aussi à l'arrière. Donc c'est une espèce de scène un peu surréaliste. Mais au départ, on ne sait pas si cette jeune, la jeune femme qui est témoin de cette scène, si elle arrive, quel est son rôle en fait.
Voilà, mais elle entend quand même la réflexion d'une voisine qui dit « il déserte ». Et elle n'entend pas ça en fait, elle entend « une île déserte », alors que c'est bien « il déserte » du verbe « déserter ». Et d'ailleurs, ce motif de la désertion reviendra dans le livre avec un autre personnage, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que là, il s'agit vraiment d'une désertion ?
Oui, il s'agit d'une désertion, c'est-à-dire dès le départ, j'ai voulu mettre l'accent sur le malentendu au sens général, et donc au sens propre aussi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend ? Quel est le rôle de notre langue ? Qu'est-ce qu'on entend de ce que les gens racontent ? Comment on comprend les choses ? Et on s'aperçoit qu'on comprend généralement toujours tout de travers, ou toujours avec un décalage. Donc c'est ce qui m'intéressait et c'est ce que je voulais retrouver tout au long du livre. C'est ce que je voulais, que le livre soit traversé par un malentendu, par une série de malentendus en fait.
Et même de malentendus donc au sens propre, c'est-à-dire des mots qu'on n'entend pas pour ce qu'ils sont.
Voilà, c'est ça, vraiment des malentendus au sens propre et puis évidemment aussi au sens figuré, c'est-à-dire ce qui me plaît dans le malentendu ou c'est une question de langage. C'est le langage par rapport à cette langue donc qui est parlée, et il y a aussi donc la langue aussi qui est écrite, et l'ensemble de tous les malentendus qu'on peut comprendre à travers les différents types de langage.
Et puis dès le début du livre, évidemment, quelque chose qui va surprendre, c'est le temps du livre et c'est le tu. C'est-à-dire qu'au lieu de la décrire à la troisième personne du singulier comme un narrateur omniscient dans un roman, ou alors quand un roman parle à la première personne du singulier, vous la tutoyez. C'est-à-dire que ce personnage, cette femme, vous décrivez ses actions en la tutoyant. Pourquoi ce parti pris ?
Alors, au départ, c'est une vieille lubie que j'ai depuis que j'écris, c'est-à-dire que je n'aime pas trop nommer les personnages. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les personnages principaux, du moins, doivent arriver comme ils nous arrivent dans la vie, c'est-à-dire un peu par hasard, comme ça, on les découvre au coin d'une rue, et puis au coin d'une rue, ben, on ne sait pas que tel personnage s'appelle Jeanne Dupont, et puis qu'elle a telle et telle particularité. Donc je voulais déjà... j'aime pas trop nommer les personnages principaux. Et donc, du coup, ça me projette dans un défi, qui est un défi formel, qui est presque un défi un peu oulipien ou péréquien, on pourrait dire. C'est-à-dire, comment je vais faire pour tenir le récit en m'affranchissant d'un prénom et d'un nom ? Et là, ben, ça tombait bien, j'avais en tête deux personnages, et puis la langue française fournit deux formes de narration à la deuxième personne, qui est le « vous » et le « tu ». Donc, je savais déjà les différencier, ça, dès le départ. Mais c'était pas aussi aussi simple que ça. Au début, je me suis posé la question de quelle était ma place en tant qu'auteur vis-à-vis de ces deux personnages. Comment j'avais envie de les voir évoluer, et j'avais envie de les voir évoluer en face de moi. C'est pour ça que je voulais vraiment les tutoyer ou les vouvoyer pour avoir ce rapport de proximité et ce rapport qui est une distance mais à la fois très courte. C'est-à-dire on est un peu témoin. On se sent d'ailleurs plus proche de quand on tutoie quelqu'un, on se sent assez proche. Quand on vous voit quelqu'un, on se sent un petit peu plus loin, mais c'est pas tout à fait défini. Donc je voulais vraiment qu'il y ait cette distance, qu'il soit marquée et sans prise de pouvoir. Quand on tutoie ou qu'on vous voit quelqu'un, on n'a pas d'emblée une prise de pouvoir sur l'ambiance, on est face au personnage et on regarde leurs actions, quoi. C'était surtout ce que je voulais faire.
Oui, mais vous auriez pu regarder leurs actions et les décrire en employant une autre personne.
Oui, j'aurais pu, mais je trouvais que le « tu » et le « vous » donnent une proximité peut-être beaucoup plus grande, beaucoup moins impersonnelle que le « il ». J'ai déjà utilisé des narrations avec des « il », voire des narrations avec des « on », et là, l'effet recherché est radicalement différent. Le « on », par exemple, est complètement dépersonnalisant, c'est-à-dire on ne sait pas à qui on s'adresse véritablement. Là, je voulais vraiment que moi, en tant qu'auteur, mais aussi les lecteurs, et puissent s'adresser directement au personnage, en les regardant vivre. Voilà. Il fait telle action, moi je suis en face de cette action, et je la regarde se faire, en fait.
Est-ce que ça crée une distance entre le lecteur et le personnage, ou est-ce que, au contraire, selon vous, ça favorise l'empathie ?
Ah, ça favorise l'empathie complètement. Moi, je trouve que quand on... Enfin, j'ai l'impression, et les premiers retours des lecteurs ont confirmé cette impression, c'est que on se sent proche d'eux, on se sent en empathie. Et alors, évidemment, ça va dépendre des personnages. Il y en a qui vont peut-être se sentir beaucoup plus proches du personnage masculin et d'autres beaucoup plus proches du personnage féminin, même si d'un côté on le tutoie et de l'autre côté on le vouvoie. Mais on a quand même un rapport qui est quand même ce rapport d'empathie, carrément.
Mais il y a aussi une question d'âge, une question hiérarchique et une question sociale. C'est-à-dire que le tu est réservé à la jeune femme. Elle a effectivement une toute petite trentaine d'années. Le vous est réservé à celui qui est appelé l'ancêtre, qui donc est un VRP en papier peint qui parcourt les routes de France depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il est très proche de la retraite, donc on peut penser qu'il a dépassé les 60 ans. Et là où ça se complique encore, c'est que l'une, la jeune, va rapidement être chargée de virer, pour le dire simplement, l'autre, c'est-à-dire pour le foutre à la porte de la boîte. Donc c'est un vous de vieillesse, parce qu'il est le plus vieux, mais c'est aussi un vous d'entreprise. C'est-à-dire qu'évidemment, elle va le vouvoyer et faire très attention de le vouvoyer parce qu'elle doit le virer, donc il est encore moins question de le tutoyer.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé ce vouvoiement et ce tutoiement, j'ai mis les deux pieds dans ce qui est effectivement là, qui est typiquement français d'ailleurs, c'est comment on s'en sort par rapport à la distance quand on doit parler à quelqu'un. C'est vraiment quelque chose sur le discours aussi. C'est la langue, mais c'est du discours. Quand on s'adresse à quelqu'un, si on le tutoie, qu'est-ce que ça provoque? Si on le vouvoie, qu'est-ce que ça provoque? Et quels sont aussi les espèces de codes secrets? Alors effectivement, si je dois virer quelqu'un, je vais plutôt avoir tendance à le vouvoyer, parce que autrement. Mais paradoxalement aussi, dans ce récit, il y a par exemple la jeune, le directeur, c'est-à-dire le chef de cette jeune responsable,
qui la tutoie immédiatement.
Ce qui la gêne d'ailleurs terriblement.
D'autant plus qu'il la drague un peu.
Oui, donc il a un rapport qui est assez malsain avec. Donc justement, je trouve que quand on commence à utiliser le vous et le tu dans un contexte qui est un contexte social, on commence à dérouler toute une pelote de fil imbriquée avec des choses qui sont non dites, mais que l'on sent. En fait.
Et donc, je le rappelle, on le surnomme l'ancêtre, donc ce monsieur, parce qu'en fait, il est depuis tellement longtemps dans la boîte qu'il est arrivé avant tous ceux qui sont là et avant ceux, évidemment, qui veulent le mettre à la porte, puisque lui a commencé avec le patron lui-même. Ensuite, il a tutoyé, pour le coup, le fils du patron quand il était petit garçon. Le fils du patron a revendu l'entreprise à un plus grand groupe, mais lui est toujours là. Donc, c'est quasiment un corps en trop, en fait.
Voilà, on pourrait l'appeler le survivant. Enfin, mais c'est effectivement l'ancêtre, ou alors certains. Alors, ça a quand même une connotation un peu péjorative. Ceux qui l'appellent l'ancêtre, c'est façon de dire, bon, il pourrait dégager. On l'appelle l'ours aussi. Donc, ce qui veut bien dire que c'est quelqu'un qui a établi une espèce de distance, une espèce de has-been, finalement. Et donc il est forcément complètement en décalage par rapport à l'évolution de l'entreprise qu'il n'a pas vu venir, qu'il a subi plutôt qu'accompagné finalement.
Oui, c'est ça. Et en même temps, quand même, ses résultats restent très bons. C'est-à-dire que c'est un corps en trop parce qu'il représente le passé, en fait, et que donc ce jeune chef-là qui veut absolument sa peau n'arrête pas de parler de rupture et de ce genre de choses. Mais en même temps, ses résultats sont très bons. C'est-à-dire qu'il connaît ses clients sur le bout des doigts, leur fourgue à peu près ce qu'il veut. Bref, il connaît le travail, quoi. Il fait le job.
Oui, mais c'est vrai que justement, c'est ce qui se passe peut-être également dans les entreprises actuelles. C'est-à-dire que, à la limite, le résultat importe peu. Ce qui importe, c'est la stratégie, c'est où on veut aller. Et là, c'est vrai que je me suis beaucoup régalé en construisant cette entreprise qui est d'import-export de papier peint, en la faisant évoluer, parce que j'y ai mis à peu près toutes les évolutions qui sont possibles. C'est-à-dire, au bout d'un moment, les entreprises se regroupent, changent de stratégie. Et là, en l'occurrence, la stratégie consiste non plus à vendre du papier peint, mais à associer du papier peint, du mobilier aussi. Donc, si on associe du mobilier à du papier peint, c'est-à-dire ce qu'on appelle une espèce de concept, un concept global de décor.
Derrière, on vous vend tout le salon. Quoi.
Voilà, on vous vend tout le salon, mais ça veut dire qu'il va falloir investir pour acheter des salons. Il ne faut pas que les salons restent sur les bras. Donc du coup, on fait des investissements, et derrière, il faut que les investissements, il faut que ça paye, donc il faut qu'on puisse les vendre. Lui, il sait vendre du papier peint parfaitement, donc il réalise un chiffre d'affaires hors pair sur tous les papiers peints, mais il est dans l'incapacité de vendre un canapé. Pour lui, c'est au-dessus de ses forces. Et donc, du coup, eh bien, effectivement, il se trouve complètement en porte-à-faux vis-à-vis de cette stratégie. Alors, donc, l'entreprise, elle a le choix soit de voir, soit de, bah, de continuer à vendre du papier peint, mais elle sait très bien qu'en ce moment, d'ailleurs, le responsable, la jeune femme le dit, le chiffre d'affaires des papiers peints n'arrête pas de dégringoler. Donc on sait très bien que de toute façon, on va aller dans le mur. Donc la seule solution, c'est de l'obliger à lui à vendre des canapés. Et comme il ne veut pas, bah, effectivement, il faut se séparer de lui. Mais et on est vraiment dans un scénario de rupture, comme le diraient d'ailleurs la plupart des économistes.
Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a quelques jours, quelques semaines, on a appris que le groupe Pinault La Redoute allait vendre la Fnac et La Redoute. Et alors, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on se dit, mais ça marche bien la Fnac, ça marche même tout seul. Alors d'abord, pas du tout, on s'aperçoit qu'ils plongent plutôt, parce que je ne sais pas, ils vendent moins de disques qu'avant, parce qu'on vend beaucoup moins de disques qu'avant, entre autres choses, mais que surtout, c'est la stratégie du groupe qui importe. C'est-à-dire que Pinault La Redoute, ils ont compris qu'il fallait faire que du luxe et que finalement, la Fnac et La Redoute, qui ne sont pas des enseignes, des marques de luxe, eh ben, finalement, ça a empêché ce que vous appelez la stratégie. Donc en fait, vous décrivez exactement ce que font les grandes entreprises, ce que font les multinationales.
Mais c'est exactement ça. Là, en fait, on est déjà dans une entreprise qui est en voie de développement ici. Elle a été rachetée par un autre grand groupe et l'autre grand groupe, il essaie évidemment d'asseoir encore plus sa notoriété. Et donc derrière, il bâtit véritablement une stratégie. Et donc ce qui importe, c'est comment on va grossir encore plus plutôt que le produit qu'on vend finalement. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage qui est énorme entre les résultats individuels que peuvent afficher des commerciaux ou n'importe qui dans une entreprise, le sens du travail en fait, et puis ce qui en est de la réalité.
Oui, sachant qu'encore une fois, non seulement il continue à bien marcher, l'ancêtre, mais c'est le meilleur, c'est-à-dire que c'est celui qui ramène le plus de ventes à l'entreprise.
Exactement, oui.
Simplement, ça n'a aucune importance, parce que la stratégie n'est plus là.
Ça n'a aucune importance, exactement.
Qu'est-ce que vous faisiez à part écrire des romans ou avant d'écrire des romans pour connaître l'entreprise et connaître l'entreprise commerciale aussi bien ?
Non, mais bon, c'est vrai que j'ai la chance de travailler donc à Orange France Télécom, qui est cette fois-ci, c'est pas une petite entreprise, c'est un grand groupe international. Et donc, dedans, il y a évidemment des filières qui sont commerciales, il y a des filières techniques. Mais on voit bien comment se mêlent les différents intérêts et les différentes stratégies de groupe. Alors là, évidemment, c'est dans le cadre d'une multinationale, c'est encore plus énorme parce qu'il faut prendre en plus dedans des aspects qui sont des aspects internationaux. Mais peut-être que la morale, ce serait peut-être de dire finalement, plus l'entreprise est grande, plus on a besoin de pouvoir derrière expliquer ce qu'on fait. Pour pouvoir donner véritablement du sens à où on va finalement. Parce que quand on est le énième maillon de... Quand on est une petite PME, c'est très facile. Hein. Moi, je vends telle chose, ça va. Mais plus le groupe est grand, plus on a besoin de pouvoir donner du sens et d'expliquer pourquoi, à un moment donné, on change de stratégie ou on s'oriente autrement.
Donc là, selon vous, il y a un vrai déficit de communication, même interne.
Là, dans ce cas-là, oui. Mais c'est tout à fait normal. En fait, on s'en aperçoit à travers les yeux de la dernière arrivée, qui n'a pas eu le temps d'assimiler tout ce qui s'est fait avant, en fait. C'est là la difficulté. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est une véritable difficulté dans les entreprises, c'est on change beaucoup, c'est-à-dire on change d'organisation, les gens arrivent, restent 3 ans à un poste, repartent ailleurs. Et tout ce qui avait été, pendant 3 ans, tout le sens qu'on avait donné à une action, finalement, finit par se perdre parce que les gens, simplement, changent de service et puis, du coup, on perd le relais de ce qu'ils avaient appris.
Est-ce que la France que vous décrivez dans ce livre, c'est une France dont on n'a pas parlé du tout pendant fort longtemps, me semble-t-il? Et puis, on n'en parle qu'au moment des élections, la plupart du temps, pour en dire du mal, d'ailleurs, pour dire qu'ils sont tentés par le Front National ou que les individus y sont complètement désaffiliés, vivent en autonomie totale les uns les autres et dans une totale solitude. Est-ce que vous avez décrit la fameuse France périurbaine ?
Je ne sais pas, moi. Ce que j'ai voulu décrire, surtout, c'était une France qui est... On ne peut même pas dire, d'ailleurs, qu'elle est à la croisée des chemins, parce que ça fait 20 ans qu'elle est comme ça, en gros, cette France un peu périurbaine. Cet ancêtre, finalement, a vendu du papier peint à des boutiques au départ qui étaient des boutiques de centre-ville, des drogueries, des voilà. Et après
des magasins de couleurs,
voilà,
comme
magasins
on disait
de couleurs,
il y a très longtemps.
Et donc finalement, ces magasins qui étaient plutôt au centre-ville se sont orientés vers la périphérie, se sont regroupés en chaînes, elles aussi marquées par une certaine stratégie aussi. Et donc du coup, c'est ce qui est devenu finalement notre réalité. Effectivement, quand on a besoin ou d'un canapé ou de papier peint, on va dans une zone commerciale de ces zones périurbaines, finalement.
Et c'est là que ça se déroule, mais c'est là aussi où elle vit, c'est-à-dire que c'est là où elle s'installe.
Oui, c'est là où elle s'installe parce que, en fait, c'est un peu le hasard. C'est-à-dire que quand elle a travaillé dans une grande enseigne de sport, après ses études, elle avait fait des études de commerce qui étaient peut-être un peu hors de sa portée, on va dire qu'elle avait été un peu plus loin peut-être que de son niveau social, on lui a fait d'ailleurs reprocher un
sa
peu.
Mère lui reproche,
sa
ouais.
mère lui reproche.
Et lui fait nettement sentir que tout ça, pour se retrouver dans ce serveuse chez Decathlon, il n'y a pas de quoi se vanter.
Voilà, c'est ça. En fait, elle est chef de rayon chez Decathlon, mais bon, on va dire à Decathlon ou quelque chose d'assimilé.
C'est moi qui dis qu'à Decathlon pour le plaisir de dire une marque, mais c'est comme ça que je l'ai lu, en tout cas.
Et donc, où finalement, un chef de rayon, c'est quelqu'un qui est exactement comme les autres vendeurs, qui vit avec eux, qui aide, qui parcourt le magasin en long en large. Et donc, ça correspondait pas du tout à cet idéal d'étude de commerce qu'on pouvait imaginer. Et donc, cette jeune femme, quand elle change de travail, elle trouve ce travail où elle va devenir directrice des ventes avec un véritable travail de management, ce qu'on lui a appris aussi. Donc, du coup, elle va essayer de trouver une revanche et de s'acheter tout de suite un appartement. Elle va se l'acheter un peu sur un coup de tête, comme ça, un appartement neuf, sans savoir si finalement, où il se trouve, visiblement. Et il se trouve que son appartement est dans une zone un peu périphérique.
Avec un minuscule centre historique du petit village qui est toujours là, mais alors qui pour le coup est totalement dévitalisé. Enfin, il y a une église et puis voilà, presque rien. Et puis on a construit tout autour.
Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est un peu typique des métropoles qui se sont agrandies très vite, qui ont regroupé dans leur périphérie des petits villages, qui se sont trouvés après démesurément agrandi. On a construit des petits immeubles à côté en essayant que ce ne soient pas des grandes tours. Mais en même temps, on a rebaptisé, par exemple, le centre-ville, ça ne s'appelle plus centre-ville, ça s'appelle cœur de ville maintenant. Et donc, justement, on est dans quelque chose qui devient un peu du marketing. Donc, c'est un peu du marketing de l'espace, finalement.
Oui, c'est ça. Cœur de ville, et en fait, elle s'aperçoit qu'elle, pour le coup, elle est quand même au cœur de rien. C'est-à-dire qu'elle est dans une zone que, bien sûr, personne ne qualifierait plus de cité dortoir ou ce genre de choses parce que les choses ne se disent plus comme ça. Ça serait très anti-marketing. Mais il s'agit un peu de ça, quand même.
Oui, bah, évidemment, je me suis beaucoup amusé en utilisant le mot cœur de ville parce que le cœur, justement, on le cherche un peu. C'est justement toute la puissance du marketing, c'est de nous faire croire quelque chose qui a un rapport avec les sentiments, alors que c'est complètement déshumanisé.
Et d'ailleurs, vous avez décrit une jeune femme pendant les deux tiers du livre, jusqu'à ce qu'on finisse d'ailleurs par se poser la question. Et là, je trouve avec pas mal d'humour, vous y répondez à peu près au bon moment. C'est-à-dire que vous consacrez tout d'un coup à un chapitre à sa vie amoureuse ou sexuelle. Mais pendant tout le début du livre, il n'en est même pas question, ce qui finalement est assez rare dans les romans. Elle a très peu de vie sociale en général, mais on lui connaît aucune histoire d'amour, aucune sexualité, rien.
Non, ce que je voulais, c'est dire que le personnage arrive comme il nous arrive un peu par l'extérieur. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est on la voit rentrer chez elle, on la voit travailler, on voit tout ce qui est véritablement visible. Mais comme en fait, elle n'a pas de vie amoureuse derrière, elle a personne pour témoigner finalement. Donc de cette vie-là. Donc on va le savoir comme ça, par allusion, au bout d'un moment. Finalement, on va rentrer de plein pied, enfin petit à petit, on va rentrer dans sa vie, comme ça, en creusant, avec les rapports avec sa sœur, les rapports avec sa mère, et puis les rapports qu'elle a eu aussi avec des hommes, qui n'ont pas duré très longtemps d'ailleurs.
Non, elle a fui leur contact la plupart du temps.
Oui, mais elle l'a fui sans forcément chercher à fuir, simplement. Le fait de travailler comme ça, de s'impliquer dans son travail simplement parce que parce qu'on lui a appris à faire comme ça et puis que est très obéissante. Donc on lui a dit bah voilà, travailler, c'est peut-être travailler finalement dans une grande surface de sport, c'est travailler 6 jours sur 7 et puis il faut être là 8 heures et puis le soir repartir à la fermeture du magasin. Donc le temps de faire différents papiers, différentes statistiques, et ben on ressort à 20h. Et donc il reste plus de place pour pouvoir faire autre chose. Donc c'est elle-même qui s'est isolée par son obéissance, en quelque sorte.
David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah.
Nous sommes avec Thierry Benstengel pour ce livre Il déserte, c'est publié chez Fayard. Alors parlons de l'autre personnage, donc l'ancêtre. Alors lui, il a une expression très curieuse. Il dit que dans la vie, dans son travail, il a su trouver la bonne distance, qu'il est toujours à la bonne distance. Qu'est-ce qu'il entend par là exactement ?
Oui, c'est-à-dire que, bon, alors, on va l'imaginer sur une grande période, comme ça, sur 40 ans de vie laborieuse, où il s'est construit lui-même depuis l'âge de ses 18-19 ans, où il a trouvé ce métier, il se l'est fait lui-même, ce métier, en quelque sorte. Il a été chercher ses clients, et donc, pour lui, la difficulté, c'était de se bâtir un équilibre. Et donc, l'équilibre, pour lui, correspond en gros à la distance. Or, sa distance a été en quelque sorte un peu chaotique, parce que finalement, d'un côté, il n'a pas arrêté de travailler pour chercher de nouveaux clients, il était toujours sur les routes, donc il y a aussi, on retrouve aussi une espèce de notion de distance, mais en même temps, il avait une femme, il avait des enfants, et donc il s'en occupait que très peu, ou que le soir, en fin de semaine, en rentrant chez lui. Mais en même temps, il avait quand même cette obsession d'essayer de se bâtir une bonne distance. C'est-à-dire, quand il rentrait chez lui le vendredi soir, il s'installait dans le canapé, mais il adhérait pas vraiment à cette espèce de vie. Donc il essayait de se mettre aussi une distance. Et là, il a une vie qui est complètement solitaire. Et pour lui, sa vie solitaire, c'est la distance qu'il a mis entre lui, les choses, ses affects, sa famille, ses enfants.
C'est ça, parce que donc sa femme a fini par partir.
Voilà.
Ses enfants, son fils en particulier, fait le même métier que lui.
Oui.
Mais alors, il y a vraiment un gouffre entre eux, pour le coup. C'est-à-dire qu'ils ont même beaucoup de mal à se parler, quand même.
Oui, il y a un gouffre entre eux. Et lui, ça le peine énormément, d'ailleurs. Parce que, en quelque sorte, quand sa femme est partie, il a trouvé ça très bien. Non pas parce qu'elle lui rendait la vie impossible, mais c'était justement peut-être le contraire, d'ailleurs. Sa femme a eu une expression, là aussi on est dans le thème du discours, on est un peu comme dans Île déserte, etc. Elle a dit, moi je pars en goguette. Pour quelqu'un qui vous dit, j'en ai marre de toi, je m'en vais, une expression comme ça, un petit peu amusante, en disant, je pars en goguette, c'est-à-dire maintenant je vais m'amuser. Il a trouvé ce décalage correspondait bien à la réalité, à son besoin de sa femme de vouloir s'émanciper. Il a trouvé que finalement, effectivement, elle avait absolument raison. Donc, il n'est pas du tout resté, il lui en a pas voulu. En même temps, par contre, le rapport qu'il a avec son fils est très ambigu. Il sait que son fils est en train de marcher sur ses traces. Donc, lui, il connaît avec l'ensemble de tous les autres commerciaux qui ont l'âge de son fils, d'ailleurs, qu'il côtoie incessamment. Il sait aussi dans quel monde il va évoluer. Et le monde des commerciaux, c'est aussi un monde de parole, c'est surtout un monde de parole. Mais qui dit parole, dit aussi par moments vantardise. Et donc c'est un monde aussi qui est quelquefois un peu faux, parce qu'on va essayer de se montrer meilleur qu'on est.
Alors le repas avec son fils, ça donne, le repas sera ainsi, dans l'esquive des sujets familiaux. Lui, vous en voulant peut-être de n'avoir pas su rester avec sa mère, vous parce que vous avez vécu ce qu'il s'apprête à subir, l'errance au point de rentrer chez soi comme un étranger, et en dernier recours, le refuge immense de l'asphalte, l'abandon, la désertion. Donc à nouveau la désertion, et donc ces hommes qui finalement sont des étrangers chez eux, puisqu'ils sont sur les routes des VRP, ils sont sur les routes quasiment 5 jours sur 7. Et donc voilà, il reste l'asphalte, il reste les autoroutes, il reste les routes. Ouais. Et quand ils rentrent chez eux, et ben voilà, ce sont des étrangers. Donc là encore, mieux vaut peut-être la désertion.
Oui, alors en même temps, c'est vrai que la désertion pour le monde des VRP, j'ai l'impression qu'on est... Bon, il se trouve que je fais pas mal de routes aussi, donc je vois aussi dans les arrêts, dans les hôtels bon marché, on voit aussi les haltes de VRP, ceux qui s'ennuient chez eux.
Ouais.
Et je trouve que c'est un métier qui est très à la fois pénible, parce que c'est un métier de communication. On est face à un client qu'on doit convaincre pendant une heure au maximum, et puis derrière on repart dans le silence, comme s'il y avait une espèce de fuite en avant, on repart sur les routes pendant une heure, deux heures, trois heures pour arriver jusqu'au prochain client. Donc on alterne à la fois l'immobilité, le dialogue, avec à la fois la fuite et puis le silence. Donc ça, je voulais vraiment je voulais vraiment que ça traverse aussi ce livre. Donc c'est pour ça qu'on est toujours aussi dans le malentendu, c'est-à-dire on reste aussi à la fois dans cette alternance, cette fois-ci de communication et de silence.
Mais d'ailleurs, vous décrivez ça très bien. En fait, c'est un monde où les gens déjeunent seuls le midi, ils dînent aussi seuls le soir. Oui. La différence entre les deux, c'est que le midi, il n'y a pas d'alcool sur les tables, tandis que le soir, on s'accorde un peu d'alcool, parce que voilà, ça va aider à se détendre et aider à dormir, tandis que le midi, il faut pouvoir carburer avec les clients de l'après-midi.
Oui, oui, oui. Oui, c'est moi. J'ai l'impression que je sais pas si j'ai l'impression que le quotidien des VRP est celui-ci, du moins ceux qui ont l'habitude de découcher plusieurs soirs par semaine.
Et en même temps, ce que vous racontez, et là, je pense qu'il y a beaucoup d'humour, c'est que ce type, il est redoutablement efficace parce qu'à chacun de ses clients, il lui raconte, mais le roman du papier peint. Alors, dit comme ça, on se dit, c'est complètement dingo, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais on vous croit assez vite, en fait. C'est-à-dire qu'il a chez lui ses premiers volumes de démonstrations qui datent des années 70. Il dit que le 1974, c'est vraiment son préféré. On a l'impression qu'il parle d'un grand cru de vin ou alors d'un Goncourt parfait, particulièrement fameux. Mais en fait, voilà, il raconte le monde et il raconte la vie à ses clients par l'intermédiaire des succès du papier peint. Un tel échantillon marche, il a beaucoup de succès à San Francisco. Enfin, oui. Voilà, c'est son prisme pour raconter le monde, en fait.
Oui, mais parce que je crois que c'est quelque chose qui est sans doute commun un peu au monde du commerce. Si on veut vendre quelque chose, d'abord, il faut être passionné par ce qu'on vend. Et si on veut vendre, on peut vendre à peu près n'importe quoi. À un moment donné, il le dit d'ailleurs, ce que veulent les clients, c'est entendre une belle histoire. Et ses clients à lui, ils veulent vraiment une belle histoire. Et d'ailleurs, tous ont eux-mêmes d'ailleurs une belle histoire à raconter, ou une histoire des fois un peu triste, comme ce personnage dans une boutique qui s'appelle Déco-Rêve déjà, et une boutique que...
Des boutiques qui s'appellent Déco-Rêve, il doit y en avoir encore des centaines, si ce n'est pas des milliers en France, oui, bien sûr.
Oui, À travers ce personnage-là, enfin ce personnage qui tient cette boutique Déco-Rêve, lui, il attend justement à ce que le représentant vienne en quelque sorte pérenniser son commerce, voilà. Lui trouver sa raison de vivre. Donc il a besoin qu'on lui raconte aussi une histoire.
C'est-à-dire que si le représentant vient, en fait, c'est que le commerce existe encore. C'est-à-dire que c'est le visiteur qui prouve son existence, parce qu'il est sans arrêt menacé de mettre la clé sous la porte, quand même.
Oui, oui. Et d'ailleurs, à un moment donné, le VRP se pose des questions, parce que quand il voit une boutique qui vivote comme ça depuis des années, il se demande qu'est-ce qu'il fait de tous les papiers peints qu'il arrive facilement à lui refourguer. Il a l'impression qu'il n'aura jamais assez de temps pour l'écouler ou suffisamment de clients pour écouler ses stocks de papiers peints.
Mais en fait, ce que vous racontez aussi, c'est une survivance, finalement, parce que on se dit que tout change, mais ça, c'est un métier finalement assez incroyablement archaïque, si on y pense, c'est-à-dire une bagnole, ça consomme de l'essence, c'est de la fatigue humaine, c'est des frais pour la boîte, il faut défrayer tout ça, les repas, les kilomètres, etc., etc. Et on se dit, voilà, ça continue d'exister, et ça n'a pas été supplanté par Internet, c'est-à-dire que ces types-là qui sillonnent le pays pour vendre des choses, vraiment les voyageurs de commerce, les voyageurs, comme on disait avant, les VRP, et ben voilà, tout change, Internet a révolutionné le commerce, mais eux sont toujours là.
À la limite, je dirais presque heureusement, mais j'ai l'impression, c'est vrai que c'est une survivance, mais qui demeure, parce qu'on a simplement besoin de contact, de rencontrer quelqu'un face à face.
Ouais.
Tout simplement. Et puis d'avoir quelqu'un qui vous raconte simplement une histoire.
Et ça, c'est un point commercial qui change pas.
Non, ah oui, ça j'en suis certain.
Et qui peut être remplacé par rien.
Oui, absolument.
Ouais, et c'est pour ça que ces types sont toujours là et continuent de sillonner les routes.
Oui, oui.
Et il raconte son histoire, mais alors, ce qui est quand même très étonnant, et là aussi on se dit, ça devient quand même un peu dingo cette affaire, c'est qu'on veut lui faire vendre des canapés, en plus du papier peint. Mais il a une sorte de phobie du canapé, mais qui en est rigolote, quoi. Il dit, voilà, il a fallu des millions d'années d'évolution humaine pour que finalement, de la station debout, l'homme finisse par s'avachir sur un de ces trucs.
Oui, bon, c'est un peu... Effectivement, il trouve sans doute un argument qui est un peu fallacieux comme ça. Mais il y a une très profonde réalité par rapport à ce que lui a vécu dedans. C'est-à-dire que lui, il a passé son temps à sillonner les routes. Donc il n'a jamais pris le temps de s'asseoir, presque au sens propre et au sens figuré, on peut dire. Sauf le week-end, quand il rentrait chez lui... Où il essayait de jouer un peu à ce qu'on voyait un peu dans les films américains des années 50, où le VRP rentrait chez lui. Hein, c'est un peu comme dans Mort d'un Covid voyageur. Donc il s'assoit sur le canapé, sa femme lui apporte un whisky, il sirote un whisky.
Il dessert son nœud de cravate,
il retire ses chaussures, et puis il a l'impression de jouer un rôle. Il a l'impression d'être dans une espèce de fiction. Et lui, il n'y adhérait pas du tout à cette fiction. Et en même temps, cette fiction, pour lui, ça a été aussi le début de sa perte. Parce que chaque fois qu'il rentrait chez lui en fin de semaine, il ne s'est pas aperçu que sa femme, finalement, peut-être attendait autre chose. Et au bout d'années où il a fini par rentrer tous les fins de week-end comme ça et s'asseoir sur son canapé, au bout de 30 ans, sa femme a fini par lui dire « non, moi je pars en goguette ». Donc il se dit quelque part « j'ai loupé quelque chose ».
D'où la phobie du canapé, donc ça donne canapé, divan, méridienne, sofa, convertible, banquette. Tant de mots pour désigner cette abdication face à une vie d'homme dont l'espèce a empilé des millions d'années avant de réussir à se déplacer debout. Il est assez drôle en même temps.
Oui, oui.
Hein? Et alors un peu plus loin, il dit carrément « le canapé, c'est la mort de l'homme ».
Oui, il a des formules, mais des formules qui sont des formules de vendeur, en quelque sorte.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'il sait trouver le truc aussi quand il aime pas, en fait.
Oui, oui.
Pour dégoûter le client du produit.
Voilà, mais c'est pour ça que lui-même, quand on vend un produit, il faut être aussi en accord, du moins d'une façon rhétorique, avec ce que l'on vend. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas vendre en même temps des canapés et des papiers peints. Parce qu'il peut pas. Il sait très bien, pour lui, le canapé, c'est la mort de l'homme, donc. Il va pas pouvoir argumenter dessus. Donc, et je pense que on peut vendre n'importe quoi, mais il faut y croire quand même un minimum.
Ouais. Ah ben lui, c'est un passionné
passionné.
Ce point de vue-là. Et puis il est très fier de ses échantillons, c'est-à-dire qu'il aime bien le produit qu'il vend aussi.
Il aime bien deux choses. Il aime bien le produit qu'il vend, et il aime bien aussi parler, parce que pour lui, voilà, les mots, c'est d'abord il a une très belle voix, et je pense que sa voix, il l'a cultivé aussi en même temps que son amour des mots. Donc l'ensemble se rejoint. Il adore parler, il adore cette rhétorique, il adore faire des grands argumentaires qui permettront d'arriver à ses fins. En fait.
Ah là, il est génial. C'est-à-dire que, par exemple, il considère que l'ennemi, au fond, c'est le bon goût. Lui, ce qu'il aime, c'est le papier peint un peu kitsch. Et qu'il faut savoir oser le kitsch. Et alors, ça donne ceci, par exemple. Le blanc, véritable tyrannie, parfaite dictature de l'intérieur moderne, dites-vous souvent. On assimile le bon goût de l'uni au reflet de nos vies lisses. Mais il faut pouvoir mesurer sa vie devant un mur de cuisine aux motifs répétitifs de moulins à café et de tasses à thé. Ça, on voit bien le papier peint avec des moulins à café, des tasses à thé. Se savonner dans une salle de bain couverte de dauphins bleus et parsemée de coquillages. On regardera un film sentimental sur fond de signes amoureusement entrelacés. Malheureusement, on a pris l'habitude d'assimiler ces papiers peints au kitsch et de les renier. On s'est fourvoyé dans l'absolu d'un bon goût universel et incontestable pour ne pas être choqué par la fantaisie, l'extravagance. C'est une grossière erreur. Leur beauté éclatera au grand jour lorsque nous en aurons fini avec nos peurs. Il est lyrique.
Oui, il est lyrique. Mais en même temps, quand on regarde, alors là, on va pas reprendre l'histoire du papier peint, mais quand on regarde l'évolution des papiers peints, effectivement, depuis les années 70, depuis, on va dire, l'éclatement, enfin, ça suivit les modes quand même, l'éclatement de la couleur, etc. On avait des papiers peints dans les années 60 avec des grosses fleurs oranges, des trucs extraordinaires qui correspondaient tout à fait au goût de l'époque. Mmh. Et puis, au fur et à mesure qu'on est avancé, on est arrivé à des choses beaucoup plus géométriques et beaucoup plus lisses. Et maintenant, on arrive à... Bon, on a l'impression, effectivement, si on regarde une évolution comme ça d'un produit sur des années et des années, eh bien maintenant, à la limite, alors la grande couleur à la mode, il y a de ça quelques années, c'était le taupe. Taupe, ça veut dire une espèce de gris gris couleur hérisson ou plutôt taupe, donc c'est quelque chose, voilà, on commence à rentrer sous la terre en quelque sorte. Et on peut pas dire que ce soit vraiment l'accomplissement de l'homme ou de l'intérieur, ou je sais pas comment l'expliquer. Mais je trouve que effectivement, on pourrait presque faire une sociologie du papier peint.
Ah mais ça, je trouve ça super drôle, parce que c'est vrai qu'à une époque, les papiers peints, on avait l'impression que c'était Vasarely, quoi. C'était des trucs cinétiques, des formes dans l'espace, géométriques, mais avec des couleurs. Oui. Et par exemple, là, ce qu'ils viennent décrire, le côté papier peint avec des dauphins ou avec des tasses à café ou des cafetières, mais c'est ce que photographie à longueur d'année le photographe anglais Martin part, c'est du kitsch effectivement, mais ça revient à la mode, peut-être parce que justement le taupe, les gens commencent à s'en lasser.
Oui, peut-être. Moi, ce que je voulais aussi montrer à l'intérieur de, enfin, sur l'ensemble du livre, c'est comment on est complètement conditionné par notre décor. On le voit bien d'ailleurs avec cette jeune responsable des ventes qui s'installe dans un endroit qu'elle ne connaît pas, qui va se retrouver dans une espèce d'immeuble à la périphérie d'un immeuble qu'elle a voulu, et elle s'aperçoit très vite que sur les quelque chose de très confortable, hein, sur les trois pièces qu'elle a, bah finalement elle peut en occuper que deux, parce que elle a pas le loisir d'en occuper une autre. Donc c'est comment le décor nous impacte aussi, nous entraîne.
Oui, exactement. Et comment il influe en fait sur le cours de nos vies.
Voilà, exactement.
Et en même temps, il a une passion. Alors là, on est très très loin du papier peint. Cet homme a une passion pour Arthur Rimbaud. Qu'est-ce que Rimbaud vient faire dans cette affaire ?
Alors Rimbaud, il est là à double titre pour lui. C'est-à-dire que bon, on va imaginer ce VRP qui est sur les routes depuis très longtemps, qui a cette passion des argumentaires, de la belle phrase. Et un beau jour, il entend, alors il sait plus trop s'il a entendu à la radio ou s'il a vu une émission à la télévision dans un hôtel de passage, mais il sait que il a appris un beau jour que Rimbaud avait été, comme lui, voyageur de commerce finalement. Effectivement, Rimbaud a été, comme on disait à l'époque, négociant, donc sur un comptoir à Aden ou au Harare.
Mais il vendait pas des armes ?
Il a vendu aussi plus ou moins des armes. D'ailleurs, on en a fait... Donc on n'aime pas d'ailleurs qu'un poète vende des armes. Hein. Donc quelque part, on met en opposition d'ailleurs ces deux vies. On met en opposition la vie du poète avec ses mots, et on met en opposition la vie du VRP Rimbaud, qui aurait peut-être vendu des armes. En fait, c'est exactement le même homme. Hein. Sauf qu'à un moment donné... Rimbaud part en Afrique, et là il a besoin autant sinon plus de la langue, parce qu'il est dans un endroit où le seul moyen de se souvenir de sa langue française, ça va être d'établir une correspondance. C'est pour ça qu'il aura une très belle correspondance avec sa famille, mais aussi également avec l'ensemble des autres VRP qui jalonnent la région, enfin les autres qui travaillaient dans les comptoirs. On pense par exemple à Alfred Hilg, qui était un des principaux négociants aussi sur ces côtes africaines. Et donc, Rimbaud, lui, il va avoir cette espèce de double vie, mais nous, en tant que lecteurs, nous en retenons deux, c'est-à-dire deux bien séparés, à la fois le poète... avec son lyrisme, et puis à la fois le VRP qui, lui, non, on ne peut pas imaginer que c'est l'égal du poète.
Ah ben, c'est-à-dire que c'est le renoncement même, c'est
voilà,
comme
c'est
ça que c'est perçu la plupart du temps, y compris par les biographes, enfin voilà, c'est
oui,
qu'il
bien sûr.
Il renonce à tout, donc il tient un comptoir.
Voilà, c'est ça. Alors que lui, justement, le VRP, l'ancêtre, il le voit radicalement autrement, parce que lui, il faut voir aussi que ça fait 40 ans qu'il vend du papier peint, mais il n'est pas complètement désabusé, au contraire. Le papier peint, ça lui a amené à aimer la littérature, à aimer les mots. Il s'est accompli. Il s'est accompli comme on peut s'accomplir dans un métier. Donc il ne voit pas pourquoi, pour Rimbaud, ça aurait été différent.
Eh ben, il compare même ces fameux échantillons de papier peint qu'il garde comme des trucs précieux. On a l'impression qu'il parle de romans. Enfin, pour lui, c'est ces volumes de la Pléiade, quoi.
Oui, c'est exactement ça. Mais en même temps, c'est... Il s'est bâti une mémoire, en quelque sorte. C'est la mémoire de son propre travail, mais c'est aussi une mémoire qui dépasse probablement aussi cette qui dépasse probablement cet aspect-là, parce que on va beaucoup plus loin. C'est aussi, mais c'est pas que sa propre mémoire, c'est la mémoire aussi de l'ensemble de plusieurs générations, simplement parce qu'on a tous eu des corps de papier peint. Et donc, d'ailleurs, il sait très bien l'expliquer. Quand il l'explique à des gens, il dit voilà, ça c'était, on l'a eu ça à telle époque.
Mais d'ailleurs, c'est quelqu'un qui parle très bien de finalement qu'est-ce que c'est que la routine. C'est-à-dire qu'avec ce personnage, vous parlez très bien de qu'est-ce que c'est qu'une vie de routine et quelle est la tentation dans une vie de routine, parfois, de faire un pas de côté, mais même d'avoir un accident, c'est-à-dire de quitter la route, de quitter l'asphalte pour aller ailleurs.
Oui, oui. Alors pour lui, la routine, elle était assez, assez particulière parce que en même temps, il est VRP, donc il est souvent sur les routes. Ce qui fait qu'à un moment donné, il se demande toujours si, et je pense que c'est quelque chose qui doit arriver fréquemment à ceux qui roulent beaucoup, se dire est-ce que c'est la route qui avance ou est-ce que c'est moi qui avance sur la route ? En quelque sorte, on a ça. Donc on est dans une espèce de monde qui est fictionnel. Mmh. C'est pour ça aussi que ça me plaisait beaucoup d'en faire un roman. C'est-à-dire qu'on rentre de plein pied dans la fiction. Et à un moment, d'ailleurs, il s'arrête au bord de la route. Et puis, il ne peut pas s'empêcher d'aller toucher l'asphalte.
Ah ben, c'est une scène grandiose.
Pour voir, si ça existe vraiment.
Et puis après, il va toucher la terre. C'est-à-dire qu'il redécouvre, en fait, la matérialité et le parfum d'un champ. Quoi.
Voilà, c'est ça. Il va s'arrêter au bord d'un tas de betteraves, parce que, comme on en voit tous d'ailleurs, et puis on se dit, mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de tubercules? On a tous envie, enfin bon, je sais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir envie de m'arrêter et de prendre un tubercule dans la main.
Pour terminer, par là où on a commencé, je vous pose la question, parce qu'il y en a peut-être eu plein depuis, je sais pas. Mais moi, c'est le premier que j'ai lu, c'est un roman de Michel Butor qui s'appelle La Modification, et qui là, a employé, en fait, non pas le tube, mais le vous de politesse, c'était pas un vous de pluriel, puisqu'il s'adressait à une seule personne, son héros, mais un vous de politesse. Vous avez l'impression de vous mettre dans ce sillage-là ?
Oui, en fait, c'est effectivement, quand j'ai relu à ce moment-là la modification, je l'ai pas lu, je l'ai lu après. Mais en même temps, j'ai essayé de voir quelles étaient les différences entre la façon dont je vais avoir de vous voyez ou tutoyer les personnages et la façon dont Butor provoquait le vous. En fait, Butor provoquait le vous simplement parce que le personnage, donc son personnage qui fait ce voyage en train de Paris à Rome pour rejoindre sa maîtresse, c'est en fait un voyage de renoncement. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont l'amener à renoncer à ce voyage. Donc, Michel Butor était dans l'impossibilité...
Oh, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que le voyage, il le fait, mais en arrivant à Rome, il n'ira même pas la voir.
Voilà, c'est ça.
Voilà la modification.
et ce qui veut dire qu'en fait, Michel Butor était véritablement dans l'impossibilité d'utiliser le jeu, puisque lui-même, il ne savait pas, finalement. S'il utilisait le jeu, ça aurait été sa propre pensée. Et il aurait été obligé, à la fin, d'exprimer ce renoncement, d'exprimer cette modification. Donc, le « vous », il a un rôle de distance, qui a un rôle de distance, sans doute, une césure beaucoup plus grande que celui que j'ai voulu provoquer. Le mien, c'est plutôt un rôle de témoin. Une sorte de témoin bienveillant, quoi.
Oui, tandis que le vous de Butor, c'était aussi une façon de transformer le sujet du roman. Enfin, la distance était telle qu'il devenait presque un objet, une chose. On a parlé de réification, enfin de choses comme ça. Vous, votre tu ou votre vous sont beaucoup plus, comme on le disait tout à l'heure, empathiques, en fait.
Vous êtes
beaucoup plus en empathie avec vos deux personnages, sans doute qu'avec Butor, avec le sien.
Oui. Alors, ça sera le tu et le vous se rapprocherait peut-être plus d'un livre de Georges Perec qui s'appelle Un homme qui dort, où effectivement cet étudiant qui décide de renoncer à sa vie, enfin du moins le prolonger indéfiniment sa vie étudiante à Paris. Le tu qu'utilise Georges Perec pour s'adresser à lui est beaucoup plus un peu un tu de témoin, effectivement.
Merci infiniment. Donc ce livre publié chez Fayard, Thierry Bensengel, Il déserte. Merci beaucoup.
Merci.
Ouais, j'ai la sensation que t'hésites entre te laisser pousser les jambes ou t'acheter une jupe.
Quoi ? Qu'est-ce que tu dis là ?
Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé.
Pierrot. Frédéric, aujourd'hui, pas de conseils culturels, mais simplement le récit de ma soirée d'hier, largement consacré à essayer de rentrer au concert des Rolling Stones. Alors, sur les coups de 18h, après ma chronique misérabiliste et soufflante, je n'ai pas été sollicité par personne. Aucune personne influente ne m'a téléphoné, Frédéric. Personne ne m'a proposé un traître billet pour me rendre au concert des Stones. Que dalle, rien, nada. Alors du coup, j'ai décidé de me rendre sur les lieux pour mettre sur les organisateurs la même pression que les Indiens vous mettent généralement quand ils déboulent dans un restaurant avec une quinzaine de roses dans la main et une tête de chien battu, des fleurs pour la jolie madame, etc. Je le fais sans accent, sinon c'est un peu limite. Donc voilà, je regardais les gens rentrer, je ne citerai pas de nom, mais je vous jure que c'était moche. Et j'essayais de m'approcher le plus possible pour attirer l'attention d'une personne qui aurait pu faire preuve d'une relative bonté. Mais ça n'est pas arrivé, Frédéric, le monde est une jungle, je le sais, encore un petit peu mieux depuis hier soir. Non, Paris n'est pas la Syrie, Paris n'est pas le Mali, mais Paris est une ville qui ne laisse pas la place à des gens un peu intermédiaires comme moi. Comme le disait fort justement Booba dans sa chanson numéro 10, sortie en 2004, sur son troisième opus Panthéon, si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. À un moment donné, j'ai même songé à essayer de me faire passer pour une personne décédée dans l'année, on ne sait jamais. Jean-Luc Delarue ou Stéphane Hessel, on me fait signe que Stéphane Hessel est toujours vivant. Autant pour moi, oui Frédéric, hier, malgré tous ces stratagèmes minables, j'étais la banane du siècle et pendant que les VIP et les Happy Few se trémoussaient sur Satisfaction et autres Wild Horses, moi je suis allé passer la soirée dans cet endroit qui est certainement plus que le concert des Rolling Stones. Frédéric se précipitait de gauche caviar à la sauce Les Enfants du Rock. Cet endroit qui est un véritable révélateur de la France d'aujourd'hui, Frédéric. La France qui lose, la France qui perd, la France qui se trimballe la braguette ouverte avec un pull troué. Je suis allé commander de quoi me restaurer au McDonald's, une bière et un Mac baguette. Et puis je me suis assis à côté d'un vieux monsieur prénommé Ferdinand qui faisait figure de vieux sage. Une sorte de Leonard Cohen mais avec un vieux blouson qui sentait très mauvais, une casquette des Minnesota Vikings. Ferdinand buvait un peu de vodka dans une flasque et il m'a dit « Alors qu'est-ce qui se passe mon petit, vous avez l'air un petit peu chiffon ?» Je lui ai répondu à Ferdinand, Frédéric, que j'étais effondré parce que je n'avais pas pu m'incruster au concert des Rolling Stones au Trabendo et que j'étais là comme une nouille au McDo de la porte de la Villette à parler avec un clodo, enfin je veux dire avec Ferdinand. Et là Frédéric, c'est Ferdinand qui a pris la parole et qui m'a dit que les Stones c'était dommage mais que lui galérait depuis 3 ans, qu'il avait perdu son boulot, que c'était horrible, qu'il vivait dans la rue et qu'il ne savait pas où dormir. Je l'ai interrompu, Frédéric, je dis écoute mon pote, je viens d'échouer à 2 mètres de Mick Jagger et Keith Richards et toi tu me racontes tes embrouilles de Sonacotra. Rends-toi compte, j'aurais été à cette soirée, j'aurais pu en parler toute ma vie à mes enfants, tu entends, toute ma vie. Et là, c'est les salariés du McDonald's qui ont dû intervenir, Frédéric, car j'étais en train de rouer de coups le pauvre Ferdinand comme Patrick Bateman de American Psycho. Alors je me suis assis pendant 2 heures et j'ai attendu que ça se passe en me disant que peut-être Mick et Keith viendraient se taper des nuggets, mais ils ne sont jamais venus. Alors du coup, sur les coups de minuit, j'ai pris le bus sans prendre de ticket, je me suis fait contrôler, résultat des courses, 30 euros dans la tête et pas de concert des Stones, comme je le disais hier, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut.
Et voilà, c'était la Biennale de la Loose par Pierre Siankowski. Nous, on se retrouve lundi. Passez un très bon week-end. Ciao.